Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir aus los. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Und Femme. Und Femme, c'est sur Radio Zone 93.8. Et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Remue Ménage, aujourd'hui ce soir sur Radio Zone 93.8. Nous partons en tour de ville, en ville de Genève, en compagnie de l'association Femmes de Théâtre, puisque en direct nous recevons Michèle Amoudru et Françoise Chevreau, qui avec l'association Femmes Tour, organise un tour de ville en ville de Genève à l'occasion des 150 ans de l'État fédéral suisse, puisque 1848-1998, ce sont les 150 ans de cette nouvelle constitution qui a marqué l'État moderne helvétique. Et à cette occasion, eh bien, Femmes de Tour et Femmes de Théâtre se sont associées pour parler des femmes à l'époque concernées par cette nouvelle Suisse, c'est-à-dire le 19e siècle. Alors, bienvenue Michel, bienvenue Françoise. Bonjour. Dans Remue Ménage. Alors, nous regrettons l'absence d'une représentante de Femmes Tour, mais Michel et Françoise nous raconteront comment tout ce spectacle s'est préparé, comment la collaboration s'est faite entre les deux associations. Et si nous leur donnons la parole aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'elles vont reprendre le spectacle qui est proposé, en l'occurrence, pour vous faire ce tour de ville, parce que ce n'est pas un tour seulement historique, mais c'est un tour théâtral que vous propose l'association Femmes de Théâtre, qui est repris le 6 et 8 octobre prochain. On espère qu'il ne pleuvra pas comme aujourd'hui, parce que je crois que là, ce sera difficile, non ?
Sous pèlerine, on le fait quand même, d'accord. Pour protéger les costumes.
Ah oui, quand même. Mais alors, cette reprise 6 et 8 octobre d'un spectacle qui avait été présenté plusieurs fois au mois de mai dernier et au début du mois de juin. Alors Françoise et Michel, ce qui m'intéresse évidemment, c'est d'abord première chose que vous présentiez peut-être encore une fois, parce qu'on en a déjà parlé, mais ça vaut la peine toujours de le refaire. Qu'est-ce que c'est que l'association Femmes de Théâtre que vous représentez ? Elle s'est fondée à quelle occasion ?
C'est une association qui a été fondée Françoise. En 1987, je crois, si ma mémoire est bonne, et qui répondait aux besoins d'emploi des femmes dans ce métier, qui n'ont malheureusement pas beaucoup de travail, pas beaucoup de rôle. Donc c'était pour essayer de donner du travail aux femmes. Et on a été parfois jusqu'à une trentaine ou même plus de femmes à faire partie de cette association. Il se trouve qu'on ne sait pas si la situation est meilleure aujourd'hui, je pense pas. Mais bon, il y en a probablement qui ont abandonné, d'autres qui se sont entre guillemets casées. Et il se trouve que nous sommes un peu moins maintenant et qu'on s'est plus orienté vers des productions qu'avant, où il y avait plus une réflexion sur ce problème-là.
Et quand puis, vous dites femmes sans emploi dans le monde du théâtre, est-ce que ça concerne Genève en particulier ? Parce que vous venez de Genève,
problème
ou
général,
de Suisse-Romande.
Puisqu'on sait que dans le théâtre classique, il n'y a pas de rôle féminin, que la femme n'a pas été représentée en tant qu'être social jusqu'à il y a très peu de temps. Et que, bon, il n'y a que le théâtre contemporain qui finalement offre quelques rôles. Ça commence à venir, mais c'est très très rare. Et puis, bon, il y a peu de metteurs en scène qui s'y intéressent, encore moins d'instances subventionnantes. Donc. Voilà, je crois que c'est général.
Quand on s'appelle Meryl Streep et qu'on habite les États-Unis, on prend un bon bouquin, on regarde s'il y a un bon rôle de femme et on le propose à un réalisateur pour, et on se bat à fond la caisse pour essayer de l'avoir. Même quand on est une star aux États-Unis, je crois que le problème est mondial.
Non, mais quand je parlais de géographie, c'est vrai que ça n'avait rien à voir avec les difficultés. C'était plutôt qui se réunissait dans votre association. Excusez-moi de la confusion du propos.
Alors bon, qui se réunissait ? Des metteurs en scène, des comédiennes, des costumières, toutes les personnes qui touchaient au théâtre.
Donc
de
pas
près
des
ou
comédiennes
de loin.
Forcément seulement.
Non, pas forcément. Mmh. Et c'était un peu ouvert à toutes les têtes féminines du spectacle.
Et qu'est-ce qui, comme tu le disais, qu'est-ce qui a fait que peut-être certaines se sont casées? Ça veut dire que parmi les 30 qui étaient,
je crois qu'il y a eu beaucoup de découragement. Il y a aussi une peur d'affirmer en fait une volonté féministe. Il y a eu ça aussi chez certaines femmes. C'est dommage. C'est-à-dire la peur simplement de l'afficher, d'oser dire qu'on était féministe en action et qu'on voulait imposer une sorte de 50%. On demandait aux metteurs en scène d'essayer d'avoir 50% d'emplois féminins. Donc ça ne voulait pas dire forcément 50% de femmes sur scène. C'était que les emplois du spectacle, donc costumière, éclairagiste et tout, que ça soit partagé. Et il y en avait certaines que ça gênait, oui, ce genre d'insistance comme ça.
Sous l'argument de dire il faut être bonne, c'est comme ça qu'on sera
non,
choisie.
Non, mais c'était une certaine mollesse qui disait ouais, mais il faut ouvrir aux hommes quand même, on ne peut pas imposer sans partager. Et puis bon, il y a toujours. Le problème avec le théâtre, c'est le côté bon, artistique du choix des œuvres et des metteurs en scène, la liberté artistique. Donc ça a entré en ligne de compte aussi bien finalement pour des metteurs en scène femmes ou hommes de choisir de monter plutôt une œuvre qu'un 50% de distribution.
Et quand on allait discuter justement avec les directeurs, parce qu'on s'est battu sur tous les plans et on allait voir les directeurs de théâtre, ils nous renvoyaient justement cet argument, mais ma liberté artistique, où est-elle? Alors on monte Jules César avec une femme et puis 12 hommes. Donc voilà le résultat. Alors nous, à l'association, on essayait de produire et de demander des subventions pour faire des lectures, pour faire
On a essayé de faire tout un travail avec des auteurs aussi, pour essayer d'intéresser les auteurs à ce genre de problème, parce qu'ils n'en sont pas du tout conscients. Alors ça, je pense que c'est un problème peut-être qui est plus inhérent à la Suisse. Je ne sais pas où ça en est maintenant, mais à l'époque, les auteurs travaillent dans leur coin et n'ont pas beaucoup de conscience de ce que nécessite une écriture dramatique.
Donc en fait, de l'association travaille auprès des responsables de théâtre qui engagent les comédiens et autres professions liées comédiennes et autres professions liées au théâtre, travaille auprès des auteurs et puis travaille alors de vous-même vous de monter certains spectacles, y compris sous forme de théâtre de rue et présence dans la rue des femmes.
Oui, tout à fait. On a eu toute une aventure avec les Petites Femmes Silencieuses qui ont hanté le Palais Fédéral et divers lieux public suisse, des conférences, des choses comme ça. Il y a eu toute une époque. Et puis, on a décidé que finalement, être des femmes silencieuses, c'était bien un certain temps, mais que maintenant, on avait envie de prendre la parole. Et on s'est plus tourné finalement vers un travail avec d'autres associations qui souvent nous font des commandes pour animer soit leurs assemblées générales, soit des actions qu'elles entreprennent.
Il reste toujours ce lien avec l'engagement féministe, c'est-à-dire que les associations en question avec lesquelles vous travaillez, c'est souvent des associations qui ont un point de vue féministe.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est même peut-être plus fort qu'avant. Finalement, quand on créait toute seule, on était moins en liaison avec ces associations. Maintenant, c'est peut-être plus fort, ça.
Et je suppose qu'alors, quand on vous fait des commandes de ce genre, ou il y a quand des propositions de ce genre, ça crée un débat dans l'association, parce qu'on n'est pas comédienne ou femme de théâtre féministe par essence. C'est tout un débat de société. C'est animé comme ça dans l'association?
Oui, certaines n'avaient pas peut-être compris non plus qu'on défendait des idées et non pas des partis. Et qu'on se mettait au service d'idées. Et c'est pour ça qu'on pouvait aller aussi bien à gauche qu'à droite, au centre, un petit peu partout. Et certaines n'étaient pas d'accord, donc on claquait la porte. Et puis, donc, quand je parle du service d'une idée, on peut être aussi au service d'une autre association, comme les Archives de la vie privée, qui sont aussi une petite association d'historiennes qui ont déjà proposé des tours de ville et déjà aussi des tours de ville théâtralisées. Et je pense que c'est une autre façon pour nous de travailler, de s'enrichir au contact aussi de ces associations et d'avoir un autre dramaturge, en fait, en amont de notre travail théâtral.
Avant de parler de cette collaboration avec l'Association des Archives de la Vie Privée, j'aimerais que vous essayiez d'évoquer quelques souvenirs comme ça, quelques moments frappants entre les Petites Femmes Silencieuses ou des choses comme ça. Il y a des images très fortes qui vous restent de cette intervention
la plus forte, de femmes de théâtre. C'est l'élection manquée de Christiane Brunner à Berne. Je crois que c'est celle qui était la plus dense, la plus flashante et la plus éprouvante.
Pourquoi ? Tu te souviens de moments de confrontation, d'images
C'était fort, cette journée.
Vous faisiez quoi, vous, en tant que petite femme silencieuse ?
On n'a pas pu faire du tout ce qu'on avait prévu, pour la bonne raison qu'on s'est trouvé tout de suite confronté à un garde municipal, je ne sais pas le nom de ce garde au palais fédéral, qui a été très agressif.
Donc juste pour nos auditrices, vous étiez avec vos habituels petits foulards roses.
Foulard rose et tout, on avait même emmené des enfants, on avait emmené une robe gigantesque de reine qu'on voulait passer à Christiane Brunner. On l'a jamais utilisée. Elle est restée dans la malle à costumes et tout, aux oubliettes.
On avait des costumes d'hommes aussi.
On avait, oui, des costumes d'hommes qu'on a... On les a pas piétinés ou je sais plus ce qui s'est passé. Ça a dégénéré beaucoup, en fait.
Les femmes suisses allemandes étaient beaucoup plus vindicatives que les Suisses romandes. Donc, comme on était en première ligne pour chanter, parce que les petites femmes silencieuses chantaient, elles ne parlaient pas, mais elles chantaient, elles jouaient, elles avaient une belle gestuelle aussi. On se faisait bombarder par les Suisses allemandes. Notre accordéoniste avait les mains en sang, ça découlait sur son accordéon. Les enfants pleuraient de vraies larmes. Qui a fait dire aux journalistes
Apocalypse,
qu'est-ce qu'elle joue bien et c'était en même temps c'était tragicomique, c'était drôle, c'était un très bon moment. Il y en a un autre qui est celui avec Boutros Ghali aussi devant les ONG. Il y avait 300 personnes dans la salle qui venaient poser des questions à Boutros Ghali, et
donc à l'ONU à Genève, ça
voilà, oui. Et nous sommes intervenus, non, c'était à Berne, Berne,
oui, à Berne.
Et nous sommes intervenus, on devait faire quelque chose en 3 minutes, et comme les petites femmes silencieuses agissent toujours en contrepoint de ce qui se passe, on a commencé à vouloir prendre possession de la scène et de l'espace. Et Boutros Ghali était entouré de flics qui avaient les mains vers leurs pistolets et qui étaient prêts à intervenir et sauter sur les terroristes que nous étions à ce moment-là. C'était drôle aussi. C'était un moment très intense et émouvant aussi de se dire que là, on faisait de l'humour avec des choses très importantes.
En l'occurrence, par exemple, ici, Michel, qui est-ce qui vous avait demandé d'intervenir là ?
C'était les ONG. Je ne sais plus le nom de celui qui nous avait demandé d'intervenir, mais c'était un monsieur qui organisait toute cette journée avec les ONG et Boutros Ghali.
Donc de plus en plus, on reconnaît la force d'une expression théâtrale de rue, c'est-à-dire où il y a bien sûr une sorte de simplification pour que les gens, parce qu'il n'y a pas la parole limpide comme dans un théâtre, et les gens apprécient cette forme d'intervention. Vous sentez que c'est un mode d'expression qui devient de plus en plus fort?
Je crois que quand les gens font une réflexion à ce niveau, comme à d'autres, au niveau de conférences ou simplement d'associations, ils ont besoin, après un travail fort et intellectuel, barbant par moments, mais utile et obligatoire, ils ont besoin d'une détente. Et nous, on arrive à dire les choses importantes dans la détente. C'est un peu les bouffonnes qui arrivent là et qui proposent un moment de divertissement pour ces personnes qui ont besoin de réfléchir beaucoup.
Tu disais, on est en général un contrepoint de la situation. Est-ce qu'il est arrivé que les gens ne vous voient pas, en guillemets ?
Non,
vous passiez inaperçu.
Non, je crois pas. Plus on essaie de passer inaperçu, plus on se fait remarquer dans ce genre de choses.
C'est ce qu'on faisait d'ailleurs, on essayait de passer très très inaperçu et on se faisait toujours remarquer.
Alors, on va écouter un tout petit extrait d'un disque que vous nous avez amené, c'est-à-dire l'ouverture de Guillaume Tell. Pourquoi ce choix, Michel ?
Parce que à cette époque-là, donc pour le travail sur le tour de ville, nous avons travaillé donc avec les historiennes pendant 2 ans à l'université. Et Françoise et moi, ça nous intéressait de savoir un petit peu ce qui se faisait au théâtre à Genève. Et on montait beaucoup Guillaume Tell à cette époque. Donc on a pris cette musique pour nos lectures autour d'Amélie, de Jeanne Mussard et pour le tour de ville.
Toutes ces femmes dont nous allons vous reparler tout de suite. Oh, l'ouverture de Guillaume Tell, c'est pour commencer notre discussion sur le 19e siècle proposée par Femmes Tour et Femmes de Théâtre dans le cadre d'un tour de ville en ville de Genève sur les traces d'Amélie Muniremi et de ses contemporaines femmes du 19e siècle qui n'ont, vous pouvez vous en douter bien sûr, pas marqué du tout l'histoire des 150 ans de la création de l'État fédéral suisse. 1848, c'est la proclamation de la nouvelle constitution qui va marquer l'État moderne suisse. C'est cette année que nous fêtons ou marquons les 50 ans de cette nouvelle constitution. Et ces deux associations se sont réunies pour proposer un spectacle qui évoque les femmes qui ont disparu trop souvent ou qui n'ont jamais été présentes dans l'histoire avec un grand H. Alors, Michel Amoudru et Françoise Chevreau, qui faites partie de l'association Femmes de Théâtre, vous nous disiez, bah voilà, ça fait, l'association avec Femmes Tour, c'est une de nos associations diverses avec tous les gens avec qui nous travaillons. Comment s'est fait votre rencontre ?
Alors, il faut préciser que Femmes Tour, ça concerne toute la Suisse. Hein, c'est une organisation qui fait des tours en Suisse partout. Et à Genève, l'association qui s'occupe, enfin qui fait partie de Femmes Tour, c'est les archives de la vie privée. Donc, nous, on a collaboré étroitement avec les archives de la vie privée et non pas avec Femmes Tour, qui est en fait le truc global. Alors, en fait, il se trouve qu'on partage un bureau avec les archives de la vie privée. Enfin, un tout petit bureau.
Donc, au bureau de l'égalité, si je comprends bien.
Au bureau de l'égalité, ouais. on est voisines. On a eu la chance en même temps d'avoir 2 mètres sur 1 attribués pour mettre une machine à écrire et un téléphone. Donc on se connaît comme ça et il se trouve que ces historiennes, pour la plupart, aiment beaucoup le théâtre. C'est marrant, c'est un truc qui leur est proche. Donc on a déjà collaboré sur d'autres choses et il se trouve que cette fois, Sabine Lorenz était l'instigatrice donc, de ce tour de ville à Genève et elle avait envie de mettre donc, en lumière Amélie Muniremi et nous a proposé de mettre en scène, de jouer les personnages de l'histoire en fait.
Elles avaient envie de marquer à leur façon, ces historiennes, les 150 ans de l'État fédéral
suisse.
Alors,
elles ont déjà fait des tours de ville. Et puis, bon, ces archives de la vie privée s'occupent donc de récupérer tout ce que les femmes gardent, justement, les albums photos, les lettres et ce genre de choses, de constituer vraiment des archives avec ça et de retracer l'histoire des femmes, qui est l'histoire privée.
Parce qu'il semblerait que
l'histoire des femmes n'est pas publique. Voilà. Alors, voilà, il se trouve que les femmes, sûrement, œuvraient dans le privé pour influencer leur mari. Ça c'est certain, on le sait, mais il faut aller décrypter tout ça et c'est un travail harassant et fatigant et il faut avoir de très très bons yeux pour aller travailler dans les archives.
Oui, parce qu'en fait c'est la seule façon finalement d'avoir une trace de l'action des femmes dans cette étape-là, dans cette histoire-là, parce qu'on ne la trouve
elles
jamais
dans occultées. Alors en l'occurrence, Amélie Muniremi, c'était une femme qui devait certainement être célèbre à son époque.
Et donc puis, femme peintre, disons, précisons-le quand même pour nos auditrices
et auditeurs. Qui a peint toute la bonne société genevoise et même des étrangers de passage à Genève, mais qui a été occultée. C'est-à-dire que bon, elle a vendu beaucoup de tableaux à son époque en Angleterre et en France, mais il reste assez peu de choses à Genève et le peu qu'il en reste, c'est dans les caves probablement du musée d'histoire, d'art et d'histoire. Il y en a un ou deux à l'université derrière des piles de bouquins ou Dieu sait quoi de ces tableaux, ou alors dans le privé. Et il n'y a jamais eu de volonté pour essayer de faire une exposition, par exemple, ou de réunir toute cette œuvre. Et c'est une femme qui était vraiment douée. Le peu qu'on a réussi à en voir, parce qu'il faut vraiment se bagarrer pour aller voir ses œuvres, c'est vraiment, il y a une force, une violence chez cette femme et un goût de liberté qui est flagrant.
Alors juste peut-être avant d'entrer dans qui a été choisi pour retracer ce 19e siècle par l'association des archives de la vie privée, puisqu'elles ne sont pas là, c'est peut-être vous qui allez nous expliquer cela. Donc quels sont les outils essentiels que, en l'occurrence pour ce travail-là, elles ont utilisé?
Alors, moi, j'aurais eu envie de dire quelque chose pour toutes les historiennes de Suisse. On est allé quelquefois les rencontrer. Et il y a une historienne qui s'appelle Elisabeth Joris, je crois, qui disait pour chercher la femme cachée, il faut aller vers l'homme connu et il faut gratter autour. Elle disait ça pendant les conférences parce qu'on a fait des lectures un peu partout à Bâle, à Zurich.
et à la Chaux-de-Fonds. Et je trouvais intéressant ce qu'elle disait parce que elle a écrit évidemment sur les femmes clandestines suisse-allemandes et elle a écrit vraiment l'histoire de ces femmes en trouvant, je pense, des sources, en grattant autour des hommes connus. Et nous, à Genève, nous sommes allés assez souvent à l'université avec Sabine. C'est Sabine Lorenz, donc, qui est une historienne allemande, qui a fait tout ce travail. Mais nous, on grattait aussi. C'est-à-dire qu'on allait... Nous, ce qui nous intéressait, c'était d'aller chercher ce qui se faisait comme théâtre à Genève, comment c'était, comment on allait monter, justement, ce qu'elle trouvait. Et ce qu'elle trouvait, elle, c'était des lettres illisibles. C'était mais insupportable à lire. Moi, j'arrivais vraiment pas à lire.
Tu veux dire quoi? Que les femmes écrivaient comme des cochons?
Non, pas vraiment. Mais
c'est l'écriture de l'époque, c'est une calligraphie.
Voilà, prenez l'écriture de vos grands-mères. C'est déjà une écriture qui n'est pas tout à fait comme la nôtre aujourd'hui. Peut-être qu'on écrira comme ça dans quelques années. Mais je ne sais pas, hein, c'était ouais, une écriture difficile à lire. Et puis, déjà un peu effacée, un français qui...
Empoulée.
Oui, bizarre. Des phrases un peu empoulées. Et Sabine, elle avait quand même alors qu'elle est allemande et qu'elle a de la difficulté quand même à parler français, elle arrivait beaucoup mieux que nous à retrouver aussi quelle était justement l'écriture de l'époque. Et elle retranscrivait tout ça sur des autres feuilles pour nous donner des traces.
Il y avait toujours des manques. C'était horrible pour faire un texte et tout suivi. Il y avait des mots qu'on ne pouvait jamais déchiffrer. Il y en a qui sont restés indéchiffrables. On s'est mis jusqu'à 5 ou 6 sur certains mots pour trouver ce que ça voulait dire. Quoi.
Donc, si je comprends bien, Sabine Lorenz cherchait, elle, les sources historiques et vous essayez, à partir de ces documents-là, de les transcrire en version théâtrale pour en faire des dialogues à partir de sources réelles.
Pas vraiment. C'est-à-dire que nous, on a joué beaucoup plus le jeu de l'état brut. C'est-à-dire qu'on avait dit à Sabine tout de suite, on fera un montage de tes sources. Alors, on lui a bien expliqué ce que c'était, c'est-à-dire qu'on prenait une lettre, un bout d'une lettre, un acte de naissance.
Des journaux intimes.
Des journaux intimes, une critique de Töpfer sur le travail d'Amélie. Et on montait le tout et ça faisait ensuite des dialogues. On avait déjà imaginé qu'il y aurait le personnage central Amélie ou Jeanne Mussard pour l'institutrice qui est aussi dans le tour de ville. Et puis autour, il y avait des personnages de l'époque, donc des personnages masculins. Puisque la révolution s'est faite à Genève, bien sûr, avec les hommes. Mais les femmes, elles étaient en coulisses, chez elles, dans leur cuisine.
Et Amélie a correspondu avec des hommes, essentiellement.
Voilà.
Elle a eu beaucoup d'hommes dans sa... Enfin, beaucoup d'hommes.
Des fils.
Des fils, un mari et un maître.
Mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, ce que l'on va entendre lorsqu'on va suivre le tour de ville, le 6 et le 8 octobre, quand vous le reprenez... C'est des choses que vous n'avez pas inventées, c'est tiré texto de documents que vous avez retrouvés.
Absolument.
Est-ce que vous êtes aussi passionnée pour la recherche historique ou c'était un vrai partage entre vous deux, entre Sabine Lorenz et vous, les femmes de théâtre?
On s'est passionnées, on y est allé beaucoup, on est vraiment retourné à l'Uni avec des loupes et tout dans les archives. Puis on est allé, des fois, on a joué les mauvais élèves aussi, on est allé fouiller dans d'autres choses. En se disant, allez, on oublie, on va voir que des choses, des documents de l'État, par exemple. Et puis on a trouvé par des voies comme ça, plus coquines, des choses qui finalement...
Mais jouer la désobéissance. Jouer la désobéissance.
Des choses inattendues et qui ne sont pas forcément la voie que choisirait une historienne. Ça, c'est parce qu'on est comédienne, on n'est pas historienne. Mais c'était très intéressant.
Ça, c'est passionnant, ça, justement. Alors, c'est quoi les voies de la désobéissance par rapport à l'histoire? Il y a des choses qu'elles omettent en tant qu'historienne.
C'est les voies du hasard, par moment. Si on veut être trop rationnel, ça devient plus théâtral.
Des choses qui
sont
pas importantes, c'est vrai, ouais. Comme une lettre d'un titi parisien qui écrit un copain à Genève et il a vécu la révolution à sa manière et on l'a mis dans pas dans le tour de ville, mais dans une lecture qu'on faisait justement. Et c'était un rôle magnifique pour celui qui a pu le jouer parce qu'il a pris le rôle de ce titi et il racontait toute l'histoire de Genève
vu par un napoléonien.
Voilà, oui.
Donc en fait, la sensibilité des femmes de théâtre que vous êtes a amené toute une autre recherche de sources que les historiennes.
Pour que ça respire un peu et puis que ça soit attrayant pour les gens qui ne connaissent pas du tout puis qui en voient que des bribes. Parce que de toute façon, cette histoire des femmes, ce ne sont que des bribes. il n'y a pas moyen de faire un lien entre les choses. Quand on sait déjà quand elles sont nées ou la date de leur mort, c'est déjà beaucoup.
Alors, vous avez dû faire des choix des femmes dont vous alliez parler. Vous avez dû ensuite, bien évidemment, les sources, on en a déjà parlé. Ensuite, des personnages liés, bien évidemment, à ce que vous trouviez. Puis ensuite, il y a les lieux dans la ville. J'aimerais bien que vous nous parliez de tout ça. Moi, juste une petite pause. Je vous propose de faire un tour de certaines villes avec pas du tout une femme du 19e, vous pouvez bien vous en douter. Mais en l'occurrence, c'est Édith Piaf. Et pour commencer, bien sûr, elle nous emmène à Paname.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans voix j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un.